I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Linden. Fred assure la production de cette émission mise en onde par John. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Donald Trump a reçu jeudi dans son QG de Manhattan le chef du gouvernement japonais Shinzo Abe, premier test de politique étrangère pour le futur président américain. Dans le même temps, le président américain Barack Obama appelait son successeur à la Maison-Blanche à tenir tête à la Russie tout en se disant prudemment optimiste quant à la capacité du virulent milliardaire à se montrer à la hauteur. Ce vendredi, Donald Trump a nommé certains membres de son administration. Jeff Sessions sera son prochain ministre de la Justice, un homme très remonté contre l'immigration illégale. Durant la campagne, M. Trump a promis d'expulser quelque 11 millions de clandestins vivant actuellement aux États-Unis et ériger un mur à la frontière avec le Mexique. L'élection de Donald Trump inquiète donc non seulement les alliés des États-Unis et les experts en diplomatie, mais aussi les illégaux. Comment voyez-vous la politique étrangère et d'immigration sous l'ère Trump? C'est la question de cette émission de l'Amérique et vous. Nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Et pour nous accompagner dans cette émission ce soir, nous avons depuis Yaoundé au Cameroun le professeur Jean-Emmanuel Pondy, ancien directeur de l'Institut des Relations Internationales du Cameroun et secrétaire général de l'Université de Yaoundé 1, si je ne m'abuse. Professeur Pondy, bonsoir.
Oui, bonsoir, John Linden. Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Nous allons à Paris pour accueillir François Durpère, historien et enseignant. François, bonsoir.
Bonsoir, John.
Merci d'être avec nous. Bakary Tandja est à New York. Vous êtes directeur d'Africa Research Center. Bonsoir, Bakary.
Bonsoir. Je suis ce qu'on appelle policy advocate.
D'accord. Alors, on a également Adama Faye qui réside à New York. Adama, bonsoir.
Bonsoir.
Bien, merci, chers invités. Je vais commencer par le professeur Pondy. On ne s'est pas parlé depuis belle lurette. Et vous avez écrit un livre, vous êtes d'ailleurs l'un des rares à avoir écrit un livre sur Barack Obama. Comment avez-vous accueilli l'élection de Donald Trump?
Non, comme avec beaucoup d'étonnement, parce qu'en fait, je ne m'attendais pas du tout à cette issue des élections. Mais disons que c'est la voix du peuple américain et il faut la respecter. Mais j'avoue vraiment que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je me disais que, en fin de compte, Hillary Clinton allait probablement remporter le scrutin.
C'était certainement aussi la même réaction du côté de François Durpère. Vous, à un moment donné, vous étiez très sûr que Hillary Clinton l'emporterait. Quelle a été votre réaction?
Je ne veux pas fanfaronner, John, mais vous avez vu le tome 2 de ma BD, de la présidente.
Tout à fait.
Et vous avez vu que dans la Maison Blanche, je mets Donald Trump avec Poutine en train de discuter des affaires du monde. Mais vous avez raison. En tout cas, les dernières heures, l'écart des sondages était très important. Et donc, il était probable qu'Hillary Clinton l'emportât. En revanche, la semaine d'avant, on a quand même tous dit que les courbes se rapprochaient et on a tous dit également qu'on était dans la marge d'erreur, à la fois au niveau national, mais dans tous les États. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Il faut le redire d'un mot. Ce qui s'est passé, c'est un effondrement de l'électorat démocrate qui ne s'est pas déplacé. 6 millions de démocrates ne se sont pas déplacés. Les Afro-Américains, notamment, n'ont pas été à l'appel d'Obama. Regardez la Caroline du Nord, par exemple. Et puis, dans le même temps, l'électorat de Trump, il s'est vraiment mobilisé, notamment dans ce qu'on appelle les Brexit States, hein, des États qui devraient normalement être démocrates et qui ne l'ont pas été. Je veux parler de la Pennsylvanie, je veux parler du Wisconsin, je veux parler de l'Ohio. Et c'est une élection à front renversé avec des classes populaires là, qui se sont ralliées à Donald Trump sur son thème anti-mondialisation.
Alors, vous restez avec nous, François Bakary Tandja, vous vivez à New York, et il me semble que l'un des thèmes de Donald Trump durant la campagne, c'était l'immigration, et vous êtes dans le domaine. Comment avez-vous réagi à l'élection de Donald Trump?
Merci pour m'avoir donné, en tout cas, l'occasion de partager avec vous notre sentiment ici aux États-Unis en tant que membre de la communauté des immigrants, particulièrement la communauté africaine. Comme professeur Bondy et le frère à Paris l'ont déjà dit, la première personne à être surprise par la victoire, c'est Donald Trump lui-même. Parce que même la nuit des élections, par rapport en tout cas aux dispositions qu'ils ont mises sur place pour la célébration, c'était très très loin de s'attendre à une victoire. C'est un choc. C'est un grand choc pour la communauté, pour beaucoup de gens ici. Mais comme nous sommes dans le cadre de la démocratie, nous devons tout simplement respecter les résultats. Bon, d'autant plus que dans le cadre de cette même démocratie, il y a beaucoup de mécanismes qui sont à la disposition du peuple pour essayer de réagir contre, en tout cas, les actions illégal ou inapproprié du gouvernement. À la veille des élections ici au travail, et ça s'est passé dans beaucoup d'organisations, il y a eu des réunions d'urgence pour évaluer la situation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'avec Hillary, par exemple, qui avait promis de faire quelque chose pour l'immigration dans les premiers 100 jours de son élection, donc, la carte a complètement changé.
Voilà, donc on en reparle tout à l'heure. Permettez que je pose la même question à Adama Faye. Adama Faye, vous êtes un Africain, vous vivez à New York. Et comment est-ce que vous avez réagi lorsque vous avez appris que c'est Donald Trump qui sera président?
En fait, moi, j'étais pas très, très surpris parce qu'on a ce qu'on appelle... la majorité silencieuse, c'est-à-dire que quand on fait des sondages, là, c'est justement des petites parties qu'on prend et que en réalité, c'est pas tout le monde qu'on a sondé, qu'on a demandé. Donc il y avait cette majorité silencieuse là, mais comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure là, c'est-à-dire que dans le North Carolina, le vote des Noirs, ça n'a pas été ce qu'on attendait. Hillary avait bien campé son truc sur peut-être que les Noirs allaient voter, que les gens de Caroline du Nord allaient voter, de la Caroline du Nord, pardon. Mais maintenant, on a vu que Donald Trump lui-même, comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, Donald Trump lui-même a été surpris par sa victoire.
Alors.
Parce qu'il a dit, en un moment, il a dit que je n'accepterai les résultats des élections que si je gagne.
C'est quelqu'un qui
s'attendait définitivement à une défaite. Donc, ça a été une surprise pour lui.
D'accord. Donc, maintenant, il est président élu. Professeur Pondy, vous êtes un ancien des relations internationales, c'est un domaine que vous connaissez. Vous avez suivi la campagne américaine et les propos de Donald Trump durant toute cette campagne. Comment pensez-vous qu'il va gérer les relations étrangères en tant que président?
Avec tout le respect que je lui dois, je pense qu'il il n'a pas montré une très grande maîtrise des questions internationales ou bien une approche, une approche nuancée. C'est quelqu'un qui a dit des choses extravagantes pendant toute la campagne, s'agissant des Mexicains, s'agissant des immigrants, s'agissant des femmes... Et puis, bon, pour l'Afrique, il n'a pas dit grand-chose, en fait. Je crois que ça ne l'intéresse même pas du tout. Donc, c'est quelqu'un qui a mené le niveau de la campagne des États, du président des États-Unis à au ras des pâquerettes, c'est-à-dire vraiment dans les marécages. J'avoue que j'ai vu beaucoup de campagnes américaines, mais celle-là, elle était pénible à voir, tant elle était personnalisée, tant le langage était loin de ce qu'on est en droit de s'attendre pour ce type donc de manifestations et et d'événements. C'était vraiment incroyable. Donc je pense que l'Afrique n'est pas sa préoccupation en particulier, et sauf s'il nous étonne, mais je crois aussi que les Africains doivent apprendre à se prendre en charge et à ne pas être toujours du côté de ceux qui sont en train d'attendre qu'on fasse ceci ou cela pour eux. Je pense qu'il est temps aussi que nous nous organisions et que nous prenions tout ceci en connaissance de cause.
Alors, François Durpère, le président Obama vient d'effectuer une visite, une tournée en Europe. Et au cours d'une des étapes de cette visite-là, il a appelé Donald Trump à tenir tête à la Russie, tout en se disant, je l'ai dit en début d'émission, prudemment optimiste quant à la capacité de Donald Trump à le faire. Est-ce que vous pensez qu'en matière de politique étrangère, entre les États-Unis et la Russie, ce sera le feu ou ce sera des relations bonnes?
Il y a plusieurs choses rapidement. D'abord, ce qui est intéressant, ce qu'a dit le professeur à l'instant sur l'Afrique, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut le dire aussi de l'Europe. Barack Obama vient en Europe et il dit en quelque sorte aux Européens, l'Europe, le sort de l'Europe, il est entre vos mains. C'est-à-dire que c'est pas Donald Trump, parce que la question se posait avec Barack Obama, et elle se posait même bien longtemps avant, quand Kissinger, vous vous rappelez, disait « moi je veux bien avoir des relations avec l'Europe, mais c'est quoi le numéro de téléphone de l'Europe ?» Donc ça veut dire que là, l'Europe, il y a deux hypothèses, soit l'Europe se dit « nous nous solidarisons, nous essayons d'avoir une politique d'être fort et commun face aux États-Unis de Trump, c'est-à-dire les États-Unis de repli, qui vont, eux, être dans une alliance avec, on le voit, Theresa May, parce qu'il y a le Brexit avant, faut bien avoir ça en tête, soit chacun va à U et à Dia, et à ce moment-là, eh bien, le poids de l'Europe va diminuer, parce que, vous venez de le dire, la grande question, c'est quid des relations entre la Russie et les États-Unis. On sait que Donald Trump a plusieurs fois dans la campagne dit qu'il tenait à ce que le niveau de tension soit moins fort avec la Russie. Ça, on peut le souhaiter, hein, que le niveau soit moins fort avec la Russie. Mais jusqu'où il va aller? Est-ce que, par exemple, il va aller dans le sens d'une levée des sanctions? À ce moment-là, est-ce que ça veut dire que le fait d'avoir envahi la Crimée, on passe dessus? Donc, c'est, si vous voulez, des inconnus. Mais pour l'instant, c'est que on débat, hein. C'est un peu comme débattre une émission de sport avant un match de foot. C'est bien de débattre. Mais évidemment, ce qu'on ne sait pas, c'est quelle est la part de ce que a dit Trump dans la campagne, quelle est cette part de si vous voulez, il est pragmatique, il est sans doute pragmatique, et qu'est-ce qu'on va retrouver dans sa manière d'agir en tant que président des États-Unis? Ça, personne ne le sait, même les plus grands experts de politique étrangère.
Alors, les plus grands experts qui se sont également trompés au cours de cette campagne, puisque beaucoup annonçaient plutôt Hillary Clinton. Professeur Pondy, comment expliquez-vous que l'un des premiers diplomates étrangers que Trump ait reçu soit le premier ministre Shinzo Abe du Japon? On se serait attendu que ce soit, comme c'est souvent le cas, Israël ou un allié proche des États-Unis.
Oui, encore faudrait-il savoir si ça a été quelque chose de planifié
de préparer, oui,
par le président élu Trump. Je ne sais pas. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'un hasard de calendrier. Maintenant, le président des États-Unis, comme nous le savons tous, comme le savent tous les panélistes qui sont dans cette émission, le président des États-Unis reste le président qui doit s'occuper des intérêts américains qui sont immuables. Donc, il a son programme, certes, sur lequel il a été élu. Programme autour duquel, moi personnellement, j'ai beaucoup de réserves, mais il y a des intérêts américains qui restent et qui restent immuables. C'est-à-dire que tout président américain doit s'occuper de ses intérêts, quelle que soit sa coloration politique et quel que soit son penchant personnel. Donc le Japon est un allié très sûr et incontestable, et ce depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale au moins. Et je pense qu'il n'est pas étonnant, par conséquent, que il figure dans son agenda.
Alors, Bakary Tandja, Donald Trump a procédé aujourd'hui à certaines nominations de son cabinet, et parmi lesquelles il y a Jeff Sessions, qui sera le prochain ministre de la Justice, un homme dont on dit qu'il est très remonté contre l'immigration illégale. Vous travaillez dans ce domaine. Est-ce que ça ne vous fait pas avoir des sueurs froides?
Absolument, c'est une préoccupation. Si vous vous rappelez, pendant, par exemple, sa fin, son audience de confirmation quand il était nommé juge, il y a eu beaucoup de voix qui s'étaient élevées contre lui, bon, par rapport aux propos racistes qu'il avait eu à tenir. Bon, donc, une telle personne comme ça, à se charger, en tout cas, d'un département aussi important que le département de la justice ici aux États-Unis, dans un pays où, en tout cas, les minorités sont sur le point de devenir, de constituer la majorité, ça constitue en tout cas une grande préoccupation pour nous. Bon, de toutes les façons, nous sommes prêts. C'est vrai que c'est une position très, très stratégique. Mais en tant qu'organisation, nous avons beaucoup de coalitions ici. Par exemple, notre organisation fait partie d'une coalition qu'on appelle New York Immigration Coalition, qui représente plus de 200 organisations. Moi-même, je suis membre du board du conseil d'administration. Et il y a plusieurs coalitions à similaires à travers les États-Unis. Et nous sommes en train de réfléchir sur les stratégies qu'il faut adopter. Il y a des voies légal que nous pouvons utiliser, et aussi, comme vous le savez, à travers les États-Unis, nous avons des États qui sont des États sanctuaires, des villes sanctuaires qui protègent les immigrants. Bon, donc, c'est vrai, il est le président, mais le président ne peut pas donner des ordres qui doivent être immédiatement exécutés par tout le monde. Il y a des dispositions déjà qui sont sur place dans bon nombre d'États et de villes qui protègent les droits fondamentaux des immigrants.
Alors, Adama Faye, vous êtes africain, immigrant. Est-ce que autour de vous, vous avez pu observer certains Africains? Quelle est leur réaction face au discours anti-immigrant, on va dire, de Donald Trump et même de certains membres de son équipe?
Écoutez, moi, je crois que les gens ont peur. Les gens qui sont aux États-Unis, africains ou bien mexicains ou bien d'autres pays qui sont là illégalement. En fait, comme l'a dit le gentleman tout à l'heure, c'est-à-dire que New York, c'est un des sanctuaires, des États sanctuaires des États-Unis. Mais la nomination de Jeff Sessions, c'est un scandale. Ça fait peur. Ça fait très, très peur. Jeff Sessions, si vous vous souvenez bien, c'est lui-même qui a le bill de McCain et de Kennedy qu'on a essayé de passer en 2007. Il faisait partie des fervents gens qui ont essayé de bloquer le bill et qui n'a pas passé. Donc ça fait très peur d'avoir Donald Trump nommé Jeff Sessions comme AG aux États-Unis. Ça fait très peur. C'est quelqu'un qui est anti-immigrant. Moi, je dirais même que c'est un raciste. Donc ce que Donald Trump avait promis aux électeurs, c'est-à-dire que je ferai tout pour nettoyer l'immigration. Donc moi, je dis qu'il est en train de faire de sa politique. Et aux États-Unis, ici, un président américain, s'il fait un mandat, c'est-à-dire qu'il n'a pas réussi, donc il va essayer, dans les quatre premières années, d'offrir ce qu'il a promis à ses électeurs. Sinon, il ne va pas avoir un deuxième mandat. Sinon, on va le considérer comme quelqu'un qui a échoué. Donc, moi, je dis que, comme les gens qui disent que Donald Trump ne va pas appliquer ce qu'il a dit, entre ce qu'il a dit pendant les campagnes et ce qu'il va faire pendant que les présidents sont totalement différents, je dis que la nomination de Jeff Sessions nous montre définitivement le contraire.
Alors, chers invités, on va prendre une petite pause et on va se retrouver juste après.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
Pour ceux des auditeurs qui prennent l'écoute de ce programme en ce moment, sachez que vous êtes sur VO Afrique et vous écoutez l'Amérique et vous. Comment voyez-vous les politiques étrangères et d'immigration américaine sous l'ère Trump? Professeur Pondy, est-ce qu'on n'est pas là en train de faire un peu plus tôt que prévu un procès d'intention à M. Trump? Quelqu'un qu'on n'attendait pas à la présidence, est-ce qu'il ne pourrait pas réussir aussi dans ces domaines?
Non, moi je crois que je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit notre compatriote africain qui habite aux États-Unis. Quand on connaît bien le système politique américain, il est basé quand même sur la parole donnée des dirigeants publics, de la sphère publique. Souvenons-nous de ce qui est arrivé à Richard Nixon en 1973 avec le Watergate. Donc je pense qu'il doit faire ce pour quoi il a été élu et ne pas se métamorphoser en une Hillary Clinton. Parce que ce n'est pas pour ça qu'il a été élu. Nous n'aimons pas sa politique, certes, moi, en ce qui me concerne, je suis très, très dubitatif sur ce monsieur, mais je crois qu'il doit faire ce pour quoi il a été élu, d'une certaine façon. D'une certaine façon, sinon, effectivement, il aura des problèmes par rapport à son électorat qui l'a porté à la Maison-Blanche. Alors, ayant dit cela, maintenant, c'est un monsieur qui est marqué par, de mon point de vue, l'imprévisibilité, et la difficulté de lire ce qu'il fera. Mais ce qui est à peu près certain, c'est que s'il est un politicien sincère, il va appliquer une bonne partie de ce qu'il a promis de faire au peuple américain.
Alors, François Durper, on a suivi Donald Trump pendant la campagne. Est-ce que, à votre avis, il pourrait changer, je voulais dire, Adama Faye? Est-ce qu'il est possible que Donald Trump soit plutôt un bon président et que ce qu'on est en train de dire là, qu'on aille un peu vite en besogne? Adama Faye?
Allô, oui.
Oui, je demandais, est-ce qu'à votre avis, Trump peut surprendre les gens par sa politique et devenir un président que les gens vont aimer?
Écoutez, moi j'ai dit avant la pause qu'un président américain, quand on dit qu'il a réussi, c'est qu'il a fait de mandat. On a vu avec le président George Bush, on a vu George Bush Sr., le papa de 43e président. On a vu aussi le cas de Jimmy Carter. On a dit que c'est l'un des plus mauvais présidents parce que ce sont des gens qui n'ont pas réussi à avoir un deuxième mandat. Donc, c'est-à-dire que les gens les font confiance une fois, après ils n'ont pas réussi, on les a balayés. Donc dans l'ensemble, pour quelqu'un qui suit dans l'ensemble avec son caractère, il veut gagner tout le temps, il veut être le plus grand, il veut être le plus beau. C'est quelqu'un qui, même s'il doit marcher sur les immigrants, il va marcher sur eux pour justement avoir un deuxième mandat, parce qu'il ne veut pas être catégorisé comme quelqu'un qui n'a pas réussi. Peut-être pour le point de vue d'un Américain, pour amener des choses peut-être qui vont être bien vues ou bien vécues par les Américains, mais nous, en tant qu'immigrés, nous voyons que si quelqu'un qui fait clash avec les immigrants, je ne vois pas où est-ce que ça pourrait nous amener. Parce que si ça ne me touche pas, ça peut toucher à mon ami. Ça peut toucher mon ami à un parent. Ou justement à quelqu'un qui est venu illégalement ici.
Tout à fait. Alors, je vais prendre quelques réactions sur Facebook. Celle-ci est d'Abraham Terra qui dit « La surprise, rien que la surprise, c'est comme ça que vous avez appelé son élection à la Maison-Blanche. C'est de la même manière qu'il y aura la surprise dans sa politique. » Et puis, Niavo Chassou dit « Pourquoi tant d'agitation pour le président sortant Obama et bien d'autres présidents dans le monde? N'ayez pas peur du revers de la médaille. » On parle d'Obama. Je vais revenir vers le professeur Pondy, puisque vous avez écrit un ouvrage sur le président américain. Comment est-ce que vous analysez le fait que, lors de sa visite à Nairobi tout récemment, qu'on ait un peu senti dans le discours d'Obama une manière un peu de jeter dans l'eau Donald Trump, notamment en ne le soutenant pas directement?
Oui, d'ailleurs, je voudrais rectifier. Je pense que vous avez dit que j'étais l'un des rares, mais je pense que François Durper aussi a écrit un livre sur Barack Obama, je crois bien. Mm-hmm. Donc, voilà. Ouais. Alors, je voulais dire que ce n'est pas étonnant. Monsieur de Barack Obama ne s'entend pas du tout avec Donald Trump. Ça, c'est clair. Et ils n'ont rien de commun, ils n'ont pas d'affinité. Et je crois même sur le plan personnel, ça ne me semble pas être vraiment la grande amitié non plus. Mais étant un homme d'État, il essaye d'être le plus courtois possible. Mais on ne va pas s'attendre à ce qu'il soit son agent de relations publiques quand même pendant son voyage d'adieu au monde. Ce n'est pas imaginable. Donc je crois qu'il fait le service minimum tout simplement, mais en étant extrêmement désolé que la suite qu'il a prévue, c'est-à-dire que les démocrates restent au pouvoir, restent à la Maison-Blanche, eh bien pour lui c'est un échec cuisant et je crois qu'il doit vraiment l'affecter. Donc à mon avis, il fait le service minimum, c'est tout.
J'allais vous demander quel héritage Donald Trump, j'allais dire Barack Obama, laisse-t-il à Donald Trump à votre avis?
Je pense qu'il lui laisse une économie qui n'est pas mal du tout, hein, quand on compare aux autres pays de l'hémisphère nord. Je pense qu'il a laissé également une réputation de l'Amérique globale qui n'est pas mauvaise, parce que quand il arrive à la Maison-Blanche, n'oubliez pas que beaucoup d'Américains sont embarrassés de se présenter dans le monde comme Américains, sous l'Amérique de George Bush. Je connais même certains Américains qui se présentaient comme des Canadiens. C'est tout dire. Par rapport à la réputation qu'ils avaient sous la présidence de George Bush Jr. Donc je pense que là, il a réussi quand même à humaniser la présidence et à rendre fréquentable et acceptable l'Amérique. C'est mon point de vue. Peut-être qu'il n'est pas partagé par tous, mais je pense qu'il a fait cela. Maintenant, il a rencontré beaucoup de problèmes, justement toujours par rapport aux républicains, qui lui ont posé pas mal d'embûches au Parlement. Et je pense qu'il doit partir avec soulagement, mais le fait qu'il ait été deux fois élu montre qu'il a remporté, globalement parlant, la conviction d'une majorité d'Américains.
Alors, Adama Faye, en quelques secondes, votre mot de la fin. Adama Faye est parti. Professeur Pandy, merci pour votre disponibilité à participer à cette émission. Merci à François Durpère, merci à Bakary Tandja. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission présentée par John Lyndon, mise en onde par John. Production Fred, restez à l'écoute des programmes de VOAfrique. Bonsoir.